Bonjour, une rumeur circule sur la conservation du chien char, communément appelé un piodi. Selon cette rumeur, les importateurs utiliseraient du formol pour mieux conserver ces poissons de mer surgelés. La rumeur persiste, elle enseigne que de nombreux Quinois se méfient et consommeraient de moins en moins le piodi. Cette situation inquiète les ménagères, les importateurs aussi. Il s'inquiète. J'ai vu son a tenté de vérifier tout ce qui se passe. On va en parler dans quelques instants. Et puis, nous devrions en principe entrer beaucoup plus en détail dans ce sujet en deuxième position pendant une heure donc. Autre chose, le ministère du Portefeuille a ordonné la liquidation d'une partie du matériel de la SNCC Bukavu. Les agents de cette entreprise s'y opposent catégoriquement. Selon ces agents, le matériel concerné ne devrait pas être vendu car il représente une valeur importante pour leur société. Disons qu'en ce moment, la succursale de la SNCC Bukavu est en voie de réunification avec sa direction générale. Il faut à tout prix assurer une cohabitation pacifique entre les communautés à Bunia. Plusieurs initiatives sont mises en œuvre. La dernière en date est l'initiative pour le sauvetage et la coiffure à Bunia. Financé par le PNUD, le projet ISCO Bunia regroupera une cinquantaine de jeunes coiffeurs issus de différentes communautés vivant à Bunia. Voilà, tous les moyens sont bons pour amener la paix surtout qu'on utilise maintenant de l'art, parce que la coiffure fait partie de ce qu'on appelle l'art capillaire du cheveu. Tous ces sujets vous touchent, vous concernent, participez au magazine au Capi Action, appelez au 081 890 68 90. Alain Doy est à la mise en onde, Nathalie Moutier-Bangandou à la régie, au micro Maïrini Walter Moulondi.
Okapi à Kinshasa sur 103.5 FM.
Voilà, la rumeur circule à Kinshasa. En tout cas, c'est autour d'un poisson de mer qui est très prisé à Kinshasa, qu'on appelle Piodi, parfois Thompson ou Chinchar. C'est le même poisson. Et cette rumeur, c'est autour d'une suspicion, on suspecterait les importateurs d'ajouter du formol dans la conservation de ce poisson. Vrai ou faux? En tout cas, nous avons cherché à savoir la vérité dans cette affaire, d'autant plus que beaucoup de Quinois consomment ce poisson, il est très bon. Et d'ailleurs, quand on est dans d'autres villes, à des milliers de kilomètres de Kinshasa, lorsqu'on amène ce poisson, c'est un plat spécial, ça fait du bonheur. Mais que vient faire cette rumeur là-dedans? En tout cas, Sylvie a tenté de vérifier la véracité de cette rumeur. Elle s'est donc rendue auprès des différentes entreprises importatrices de Piodi, Piodi ou Thompson, ou Chinchard, si vous voulez. Et Sylvie est avec nous en studio. Sylvie, bonjour.
Bonjour, Walter.
Alors, quelle est la source de cette rumeur?
Walter, nul n'a pu nous renseigner sur la provenance de cette rumeur, mais je vous invite à écouter les conséquences de cette rumeur sur la population. Autant certaines personnes y croient, autant d'autres n'y croient pas du tout.
La terre à Thompson a un restaurant là. Et ça m'a ramalé au couta. Pour banner à banner au terre à Thompson, n'est au yoka qui est à mon tour à passer réclamation. T'es que même ma mère, bisous la famille, la bisous au koufi, ou bien alors que mon roté, l'homme moins athée. Si ce que la zone terre à Thompson. Non, ok, na mesa ali banda kula Thompson ezali bat bazoli akayango. Na sala Thompson na soso me bazo préférer toujours kolia ka mpio dikak.
Ngala ki mabi mikolo babi Thompson ezali ba chef formal, chango formal. Bon, bataki bambiso ye ya minene ba Thompson ora minene. Ba robinde zo sami na bambiso ya minene wana. So ngo tu yango bani ko sala ngo omona yume na te epoli. Ngala mba ona mona chango epolaite. Bon, ngapo na ngala mona ngo ezali kambaluku. Ta poso ke zaki ba chango formal nde deja na mikolo bat balia ki yango. Nde parce que c'est juste malade mais ramoni za makamba lukuta
banda ba bibi kambwana na namba ka yangote ata ndunda na namba kati
pona nini
kana zo banga te bara ba ko ya kufa.
Donc il y a la peur, il y en a qui croient, d'autres qui n'y croient pas, d'autres qui prennent des précautions pour dire on ne sait jamais, il faut prendre des précautions. C'est ce qu'on peut résumer. On vient d'entendre cette femme dire qu'elle ne met plus du Thompson dans ses casseroles pour ses enfants au risque de les voir mourir. Mais Sylvie, finalement, parce que la structure la plus importante dans cette affaire, ce sont les importateurs du Thompson. Est-ce que vous les avez rencontrés? Qu'est-ce qu'ils pensent d'abord déjà de cette rumeur?
Nous sommes adressés à deux importateurs, les principaux.
Oui.
Il s'agit du groupe Orgaman et Congo Futur. Mm-hmm. Les deux entreprises ne connaissent pas la provenance de cette rumeur. D'ailleurs, le responsable du service client de l'Orgaman, Richard Mukoj, nous dit ce qu'il en pense.
Nous nous tenons à démentir cette information parce que, donc, comme vous le savez, les formaux, c'est un produit chimique utilisé dans les industries chimiques. Donc, c'est un produit qui est toxique. On ne peut pas l'utiliser comme conservateur donc, dans le poisson ou dans d'autres produits alimentaires. C'est un produit qui est utilisé pour conserver les cadavres. Donc dans des morgues, il n'est pas utilisé pour certains des produits alimentaires parce qu'il est toxique et cancérigène.
Est-ce que vous avez effectué certaines enquêtes pour savoir d'où venait cette rumeur?
Pour faire une enquête comme telle, non. Donc, cela ne nous appartient pas à faire de telles enquêtes. Ce sont les autorités qui doivent faire ces enquêtes pour savoir d'où vient cette rumeur. Parce que c'est une rumeur qui risque de perturber beaucoup de choses dans la ville. Surtout que le Mpioli, c'est un produit de consommation de base pour la population à faible revenu. Nos produits alimentaires proviennent de différents pays. Pour ce qui concerne le Mpioli, un produit provient de la Namibie. Il est pêché dans la haute mer namibienne. Et dans le traitement de ces poissons, on les lave, on les refroidit et puis on les congèle. C'est tout ce qui est subi comme traitement. Donc, il n'y a que de l'eau qui intervient dans le traitement de ces poissons.
Voilà, le point de vue côté du groupe Orgaman. Vous venez d'entendre Monsieur Richard Mukoj, responsable du service client du groupe Orgaman. Mais de l'autre côté, l'autre grand importateur, c'est Congo Futur. Où est-ce qu'il achète ses poissons et qu'est-ce qu'il dit de cette affaire?
Orgaman et Congo Futur donc achètent leurs poissons en Namibie. Ils le mettent à la mer. Et arrivé ici au Congo par le port de Matadi, l'OCC procède sur place à un autre contrôle. Lorsque celui-ci est conforme, il leur délivre un certificat de conformité. Et le coordonnateur d'ailleurs de Congo Futur, M. Léonard Mbungu, nous explique d'ailleurs comment se fait le contrôle lors de l'achat en Namibie.
Lors de l'achat, il y a les mandataires de l'OCC, qui est la Société Générale des Surveillances. C'est le mandataire de l'OCC, la SGS, qui s'occupe du contrôle de la qualité, de la quantité et du prix de produits avant sa mise à la disposition de l'importateur. Et à la population congolaise, de ne pas croire parfois aux rumeurs, puisque nous avons besoin de reconstruire ce pays. Et ces rumeurs-là nous portent beaucoup de préjudices. C'est-à-dire nous n'avons pas exercé notre petit commerce, ou nous n'avons pas notre petit commerce, dis-je, et parce qu'il y a des rumeurs, il y a des produits qu'on peut acheter, mais on doute un peu parce que la méthode de conservation n'est pas bonne, disent-ils, par ces rumeurs-là. Mais à la population, nous leur demandons d'être vigilants quand même, hein, mais aussi d'être prudents. Et il ne faut pas croire sur les rumeurs.
Voilà, on vient d'entendre M. Mbungu, qui lui est du groupe Congo Futur, qui pense que cette rumeur leur cause aussi quelques préjudices. Ça paraît sérieux, il n'a pas évoqué les préjudices. À quoi faisait-il allusion, Sylvie?
Il faisait justement allusion, en fait, avant même de dire ce à quoi il faisait allusion, je voudrais d'abord dire que nous sommes rendus au marché central, parce qu'il a dit qu'il allait leur poser des préjudices, mais nous avons voulu constater des préjudices sur terrain. Oui. Nous sommes donc rendus au marché central, et nous sommes entretenus avec des mamans qui vendent l'Umpioli. Avant même qu'elles ne nous renseignent sur quoi que ce soit, nous avons remarqué quelque chose d'anormal.
C'était quoi?
Nous avons fait semblant de chercher à acheter le Mpioli. Nous posions la question, ça coûte combien et tout. Et nous nous sommes rendus compte que nous étions pratiquement la seule personne à approcher ces marchands de Mpioli. Nous leur avons posé la question de savoir pourquoi il y avait peu de gens dans leur rayon. Elles nous ont appris que c'est à cause de la rumeur qui circule sur la conservation du Mpioli avec le formol. Elles nous ont également déclaré que depuis plus d'un mois, elles ont du mal à nouer les deux bouts du mois parce qu'elles vendent difficilement leurs poissons. Et nous aurons bien voulu leur proposer, proposer à nos auditeurs le son de ces femmes en train de se lamenter sur leur sort. Mmh. Mais nous n'avons pas pu avoir l'autorisation de l'administration du marché central. On nous a demandé d'aller, à l'hôtel de ville. Ça nous a assez...
Pour obtenir les autorisations. Oui. De...
Et cette rumeur est tellement sérieuse qu'elle touche même les importateurs. Mmh. Et dire que ça touche tellement les importateurs à telle enseigne que le chargé de vente de l'Orgamane, Richard Mokoche, nous explique les préjudices que ça leur cause.
Depuis que la rumeur a commencé, nous connaissons donc une baisse très sensible dans la vente de poissons, que ce soit à notre niveau et même au niveau de tous les importateurs, donc personne ne parvient à vendre les poissons comme on les vendait.
Ben voilà, il y a donc les stands des vendeuses au marché qui étaient les plus prisés. Il y avait des bousculades autour pour
parce
avoir...
Parce que le Thompson, c'est quand même...
C'est bon marché d'abord, et puis c'est à la portée de tout le monde. Et brusquement, cette rumeur qui arrive, et ça commence à s'aérer autour de ces moments. Mais il faut dire que, quand même, les femmes qui vendent les Mpiodi ont l'habitude de recongeler les invendus. Donc, il y a congélation, décongélation. Alors, l'on sait que ce n'est pas du tout bon pour la santé. Le poisson peut être avarié. Et lorsqu'on le congèle et le recongèle, personne ne peut soupçonner le mauvais état de ce poisson après l'achat. Parce que si c'est autour des glaçons et tout, il est dur, il est solide, on pense qu'il est bon. Et une fois arrivé à la maison, les clients qui commencent à le décongeler pour le préparer, c'est vrai qu'on me dit, j'ai acheté du poisson avarié.
Vous avez absolument raison là-dessus. Il faudrait justement que la population comprenne qu'un produit surgelé ne peut être recongelé. Dès qu'on le dégivre, on doit le consommer. Pour les vendeuses de Mpiodi, pour les mamans qui vendent ce Mpiodi, on leur recommande de ne dégivrer que la quantité de poissons qu'elles sont sûres de vendre.
Voilà.
D'éviter de décongeler un surgelé, c'est pas bon pour la santé.
Donc c'est au fur et à mesure qu'elles devraient le faire, ça c'est astuce pour les vendeuses, d'amener juste un carton, laisser d'autres cartons en chambre froide, et lorsque le premier carton est fini, aller récupérer un autre.
Maintenant, c'est d'ailleurs ce qu'on a vu hier, le Mpiodi, qui étaient presque dégivrées, elles sont en train de vendre ça, et elles-mêmes disent qu'elles ne vendent pas, et donc...
Il y a beaucoup d'invendus.
Il y a beaucoup d'invendus, on n'était pas là, mais je suis sûr qu'après, elles auraient remis ça en chambre froide et recongelé, et puis le lendemain, dégivré encore, vous comprenez.
Et pour les mamans à domicile, une fois qu'elle a sorti son poisson du congélateur, si elle ne sait pas tout faire, il faut qu'elle puisse le frire et le garder déjà préparé.
Ou bien même le saler, par exemple, décongeler, c'est pas bon.
Parce qu'il faut rappeler qu'on avait observé ça il y a quelques années, le 2 août 98, quand il y avait eu coupure de Inga, beaucoup de gens avaient salé le Thompson.
Leur provision même.
On peut faire la même chose actuellement pour ne pas connaître les méfaits de la congélation, décongélation, recongélation et j'en passe. Donc, Sylvie, on sait aussi, malheureusement, que certaines chambres froides situées à la cité connaissent des problèmes d'électricité avec le délestage, les coupures d'électricité. Là, la question qui est intéressante, est-ce que vous savez, peut-être vous êtes renseigné, à quel degré il est recommandé de conserver le poisson?
Sur les informations que nous avons recueillies, il convient de conserver les produits surgelés, pas seulement les poissons, mais tous les produits surgelés, à une température de moins 18 degrés Celsius. Nous avons donc visité les chambres froides de l'Orgamane et de Congo Futur.
Et vous avez perdu la voix.
J'ai perdu la voix, vous remarquez que ma voix est légèrement enrouée. Donc il fait très 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 froid. À telle enseigne que c'est même insupportable. J'y suis restée peut-être 5 minutes et puis c'était tellement insupportable que j'avais un anorak. On m'a donné quelque chose pour me protéger du froid. Mais
anorak, il faut dire aux auditeurs que c'est le gros coat qu'il a avec des cotons là.
Qui ressemble un peu à un Michelin.
Voilà, un peu Michelin. Tu étais Michelin
alors. Donc, mais au niveau de la cité, Walter, il faut dire que. Combien de chambres froides respectent cette obligation parce que c'en est une.
Moins 18 degrés. Est-ce qu'ils ont moins 18 degrés partout? Est-ce qu'ils ont l'énergie électrique régulièrement pour éviter que ça se décongèle, que ça se recongèle encore?
Il conviendrait donc, Walter, que l'OCC procède également au contrôle de certaines chambres froides qui sont situées à la cité.
Mais voilà, on devrait avoir un principe, docteur Kitamba de l'OCC, effectivement, tout à l'heure en studio pour qu'il essaie de nous expliquer les contrôles qu'ils font en ce qui concerne la qualité des aliments, surtout frais.
Étant donné qu'il est chef du département laboratoire au sein de l'OCC.
Mais voilà, donc c'est le big boss de ce département qui doit contrôler la qualité. Les auditeurs peuvent poser toutes les questions possibles en appelant au 081 890 68 90. Il répondra à nos questions, aux vôtres aussi. Sylvie, on va vous laisser.
Mais une question quand même, Walter, est-ce que vous mangez l'Opiodi?
Ah non. Enfin, c'est une question d'habitude alimentaire.
Pas par peur, non.
Non, c'est pas par peur. Il faut dire que quand je suis arrivé à Kinshasa, j'étais friand d'une piodi. Bon, et puis par après, je me suis rendu compte que son goût n'était pas proche du tilapia qui m'a fait grandir à l'est. Et que donc, je me réfère plutôt vers l'autre poisson, les dorades qui ressemblent un peu au tilapia.
Moi, j'en ai mangé hier d'une piodi.
Où je rencontre des gens qui ont des étangs ici à Kinshasa qui font une sorte de tilapia. Et ça, c'est une question d'habitude alimentaire. Ouais. Et vous avez mangé d'une piodi.
Et je suis toujours en vie, d'ailleurs.
Pardon ?
Je suis toujours en vie en face de vous.
Mais oui, mais enfin, le problème, c'est que le problème qui reviendrait, qui serait peut-être vrai, c'est une hypothèse qu'on va vérifier tout à l'heure avec le docteur Kitamba. Ouais. Est-ce que c'est pas des poissons qui sont
surgelés,
décongelés, tout, que le poisson devient avarié et qu'on le consomme comme ça, peut-être par là, mais on aura des précisions par rapport à cette grande question. Alors, docteur Kitamba qui va arriver tout à l'heure, on va vous laisser partir, Sylvie, surtout prendre un thé chaud avec peut-être un peu de citron pour éclaircir votre voix.
Merci, docteur.
Parce que vous l'avez perdu dans les chambres froides de Orgamane et des Congo Futurs hier.
Merci, Walter.
À bientôt, Sylvie.
Okapi. Okapi à Kinshasa sur 103.5 FM.
Okapi Action, en ce premier sujet d'aujourd'hui, cette rumeur qui circule dans la ville de Kinshasa autour de la conservation du chacha en Piodiou Thompson, ça veut dire la même chose, ce poisson de mer qui est très prisé à Kinshasa. En tout cas, selon cette rumeur, les importateurs utiliseraient au conditionnel, hein, je parle au conditionnel du formol, pour mieux conserver ces poissons tant prisés. La rumeur persiste à telle enseigne, vous l'avez entendu, que les stands des vendeuses de Thompson dans le grand marché de Kinshasa n'est plus aussi pris d'assaut comme il y a un mois. Et puis au niveau des importateurs, les grands, si vous voulez, Orgamane ou Congo Futur, ils ont observé une baisse des commandes à leur niveau. Alors, qu'est-ce qui se passe? Nous avons en studio Monsieur Kitamba, il est médecin, vous êtes médecin vétérinaire, hein, médecin vétérinaire, directeur de laboratoire au niveau de l'Office congolais de contrôle. Docteur Kitamba, bonjour.
Bonjour.
Voilà, vous avez sûrement appris à cette rumeur qui circule. Quelle est votre lecture de la rumeur?
Merci beaucoup, Okapi, de me donner l'occasion de contribuer un peu à calmer les esprits. Pour ce problème qui devient vraiment un problème de santé publique. Mm. Je dois dire d'entrée en matière que cette rumeur est très peu vraisemblable. Mm. Mais vraiment alors très peu vraisemblable. Tout le monde connaît le formol. C'est un produit chimique, toxique, dangereux, utilisé dans les conditions que tout le monde connaît.
Disons-le, on l'utilise pour conserver les cadavres.
Les décors.
Décors, oui.
Je pense que ce formol a été associé à cette rumeur pour son caractère justement dangereux et morbide, pour créer un peu une sorte de panique chez les gens. Parce que, à mon sens, il n'y a rien qui peut justifier l'association du formol avec les denrées alimentaires, les vivres frais. Le formol ne peut être utilisé que comme désinfectant, pas comme conservateur pour les denrées alimentaires, c'est interdit par l'OMS.
À votre avis, d'où s'est répartie cette rumeur?
C'est difficile à dire. Difficile à dire. Nous sommes en fin d'année. C'est une rumeur qui, apparemment, est destinée à perturber les habitudes alimentaires des gens en cette fin d'année. Le piodi étant, comme vous l'avez dit vous-même, une denrée très prisée, qui est parmi les moins chères.
Bon marché, à la portée de tout le monde.
Oui. Et j'ai l'impression que il y a là quelque chose d'incompréhensible.
Mais au niveau de l'OCC, lorsque vous apprenez des rumeurs comme ça, est-ce que vous prenez la peine d'aller inspecter, contrôler la qualité de ces vivres frais qui sont dans les chambres froides?
L'OCC, en fait, il faut distinguer les choses. Hein. Mm. L'OCC, sa mission première, c'est de contrôler les denrées alimentaires à l'entrée, mm-hmm. à l'entrée du territoire national, partout.
Oui.
Et je dois vous dire que, en ce qui concerne les produits, les vivres frais, notamment, nous avons de la part du gouvernement des instructions strictes en ce qui concerne ce contrôle. Même si les vivres frais sont contrôlés à l'extérieur avant embarquement, nous sommes tenus de refaire les contrôles à l'arrivée, c'est-à-dire au débarquement. Et je dois vous dire que pour lui offrir ce contrôle est de plus strict. Nous commençons par ce qu'on appelle le contrôle organoleptique,
c'est-à-dire
nous voyons l'aspect du produit,
pour le poisson, l'aspect extérieur.
C'est-à-dire nous voyons. En fait, c'est fait plus par les médecins vétérinaires, pour vous dire que l'attention qu'on accorde à ce contrôle-là. Après cela, nous faisons les trucs de cuisson. Donc, il faut voir un peu le goût, l'odeur du bouillon et la saveur du bouillon. Ensuite, nous passons aux épreuves microbiologiques pour voir s'il n'y a pas de microbes dangereux là-dedans. Enfin, nous faisons la physicochimie. Nous détectons là-dedans des substances qui s'observent lorsque le poisson est déjà attaqué. Ça s'appelle l'ABVT, l'azote basique volatile. Si le poisson est attaqué, même s'il est en cache en couverture, nous saurons à l'intérieur qu'il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il a été dégradé, même s'il est reconcilié après. Maintenant, en ce qui concerne les chambres froides, là il faut distinguer les rôles. Nous contrôlons bien sûr la température des chambres froides. Nous contrôlons périodiquement.
Il faut au moins 18 degrés.
Il faut au moins 18 degrés.
Ça, c'est moins 18 degrés. Ouais.
Au moins moins 18 degrés. Ouais. Maintenant, nous contrôlons la température. Mais pour ce qui est d'aller échantillonner dans les chambres froides, cela se revient à l'hygiène, à la santé. Sauf si il s'avère qu'on nous signale que telle chambre froide a une panne d'électricité ou pas, à ce moment-là, le client ou la commune peut demander un contrôle, nous amener un échantillon que nous pouvons analyser. Mais ce rôle-là revient effectivement à l'hygiène.
Docteur Kintaba, revenons à ce que vous avez expliqué comme processus de contrôle. C'est assez intéressant. Soyons pratico-pratiques. En ce qui concerne les grands importateurs de POD à Kinshasa, est-ce que vous faites régulièrement ces contrôles lorsqu'il y a des cargaisons qui arrivent?
Absolument, absolument. Les grands importateurs n'ont pas de problème avec nous. Dès qu'un bateau arrive, l'OCC commence les contrôles au niveau des cales des navires. Donc, nos agents descendent dans les cales des navires, prélèvent la température qui a prévalu tout le long du trajet, c'est indiqué. Échantillonnent déjà au niveau des cales des navires. Il y a un laboratoire, notamment.
Les chalutiers, en fait.
Ah, chalutiers. Oui. Il y a un laboratoire à Matadi qui commence déjà l'analyse. Mm-hmm. Et puis, même, parfois même, les termine directement quand il n'y a pas beaucoup de travail. Donc, le travail commence très tôt. Dans les cales du navire, nous vérifions comment la machine est arrimée, avec quoi elle a été arrimée, et la température qui prévalait, l'aspect physique, et directement est amenée au laboratoire où on procède aux analyses.
Vous nous dites, docteur Kintaba, que les POD qui arrivent à Kinshasa, en tout cas au port de Matadi, est contrôlé, il n'y a pas de problème.
Absolument, ça je vous en donne ma parole, la garantie de l'OCC, que c'est contrôlé et bien contrôlé.
Selon les informations que j'ai reçues, les besoins en POD à Kinshasa sont au moins 2000 tonnes par mois. Ce que j'ai appris, c'est si quelqu'un veut vérifier, peut aller vérifier auprès des importateurs. Je suis sûr de ma source d'information. Mais il y a un des importateurs qui disait si on devrait mettre du formol là-dedans, ce serait une valeur ajoutée et ils auraient beaucoup plus de pertes en le faisant que parce que 2000 tonnes, vous rendez compte que c'est que ça pourrait représenter. Mais il y a un autre problème, vous l'avez évoqué avec nous tout à l'heure, docteur Kintaba, c'est qu'il y a, avec le manque d'électricité, les délestages, les coupures d'électricité, il y a des chambres froides, ici à Kinshasa, qui connaissent des chutes d'électricité. Et donc, la température est supérieure à moins 18 degrés. Et donc, ce n'est plus dans des conditions idéales pour conserver ces aliments frais. Qu'est-ce que vous dites à ce sujet? Parce que lorsqu'on va encore recongeler, lorsque la chambre froide revient dans une situation optimale de conservation, il y a encore surgélation, décongélation, et là ça peut se décomposer à partir de ces phénomènes, docteur, on est d'accord?
Le principe est le suivant, c'est que une denrée qui a été congelée ou surgelée, une fois qu'elle est décongelée, il est vivement recommandé de la consommer. Et de la garder peut-être pour un jour ou deux, mais alors au réfrigérateur, pour la consommer. Ne plus en tout cas la recongeler ou la réfrigérer. Ça c'est le principe. Maintenant, il arrive effectivement qu'il y ait des délestages, qu'il y ait des coupures de courant intempestives dans la ville. C'est vrai. Pour autant que, je dis bien, pour autant que la température ne baisse pas trop. Par exemple, on est à moins 18 degrés. Nous pouvons aller jusqu'à peut-être à moins 15, moins 10 encore. Les produits seront encore congelés. Mm-hmm. Et je pense que lorsque la température reviendra à normal à moins 18, mm-hmm. il n'y aura pas de méfait sur la qualité du produit. Il ne faut pas aller jusqu'à la décongélation. En ce moment-là, il y a altération. Qu'est-ce que c'est? C'est simple. Hein? Vous voyez que quand c'est décongelé, l'eau sort de la viande. Mm-hmm. C'est-à-dire que les cellules exhument leur jus. Exhument le jus. Et la viande, le poisson, perd sa qualité première. Le jus qui sort, ce sont des protéines solubles, des sels, etc. Et lorsqu'il va être congelé, il ne va plus retrouver l'état originel. Même s'il n'est pas contaminé en ce moment-là, mais il perd sa qualité originelle de viande ou de poisson frais. Maintenant, si en plus la décongélation dure longtemps, dans des conditions normales d'environnement, là on peut risquer d'avoir une contamination et ça peut devenir dangereux, surtout pour le poisson.
Il peut être avarié parce que le poisson se détériore assez vite.
Effectivement, il peut être avarié.
Et les vendus qui sont au marché, on les remet en congélation, c'est ça le problème.
Ce n'est pas une très bonne pratique. Ce n'est pas une bonne pratique, ça nous devons le reconnaître.
Oui, si vous vous rapprochez du micro, docteur. Je vais vous demander de mettre vos casques parce qu'il y a un auditeur que nous allons écouter maintenant qui veut réagir par rapport au sujet en examen.
Je m'appelle José Mbaki, je suis à Mongafula. Je voulais juste intervenir pour le sujet en discussion pour dire que vraiment il faut être naïf pour croire en de telles choses qu'on puisse mettre du formol dans du poisson. D'abord, si ces commerçants qui importent du poisson biodit sont des commerçants qui doivent faire le bénéfice, je ne vois pas pourquoi ils viennent prendre du formol qui coûte excessivement cher et dont les familles ne savent même pas avoir pour leurs membres de famille qui meurent. Et ils vont dépenser énormément d'argent pour acheter du formol. Et je me demande même comment ils inoculent ces formoles dans le poisson. Donc c'est vraiment inimaginable. Il n'y a qu'une population comme celle de Kinshasa qui peut croire de telles sornettes et jusqu'à refuser d'acheter du poisson. Et uniquement pour ce genre de sornettes, je pense que nous devons nous élever, nos populations chinoises, pour vraiment analyser à fond certaines rumeurs et vraiment garder sa tête froide et être serein. Parce que franchement, ce sont des sornettes qu'on ne peut pas imaginer et commercialement parlant et même chimiquement parlant. C'est vraiment inimaginable. Voilà, madame.
Très bien, monsieur. Merci beaucoup pour cet apport. Docteur Kintaba, une réaction par rapport à cette réaction?
Je souscris entièrement à ce que vient de dire l'auditeur. Absolument. Il est invraisemblable d'imaginer, au prix du formol que nous connaissons, qu'on puisse préparer des bains de solitude pour le poisson, des tonnes de poissons.
2000 tonnes par mois, la demande à Kinshasa.
C'est tout à fait... C'est délirant. C'est délirant.
Ce qu'on peut retenir 40 minutes après le début de l'émission, c'est que c'est une rumeur qui est fausse. Docteur Kintaba vient de le démontrer. Un autre auditeur qui nous appelait de Ngaba à Kinshasa a abondé dans le même sens. Nous avons aussi d'autres réactions qu'on va recueillir dans quelques instants. Mais docteur Kintaba, une chose est vraie, c'est que le phénomène congélation, récongélation, décongélation pose des préjudices parce que lorsqu'on observe par les yeux un poisson qui est bien congelé avec les glaçons blanchâtres de bonne qualité qu'on arrive chez soi, on se rend compte que quand même le poisson est déjà avarié.
Évidemment, comme je l'avais dit avant, recongeler ou congeler une viande qui est déjà avancée ne résout pas le problème, n'améliore pas la qualité.
Qu'est-ce qu'il faut en faire?
J'ai dit que quand le produit était décongelé, il faut le consommer assez vite, assez rapidement. Il ne peut être conservé que pendant peu de temps, un jour, deux jours, en réfrigération. C'est-à-dire à température inférieure à 10 degrés, compris entre 0 et 5 degrés à peu près. Pendant 2-3 jours, on peut encore le conserver. Parce que le processus de dénaturation, lorsque le produit qui est décongelé est attaqué par des microbes, il y a ce qu'on appelle une dénaturation, une production de substances chimiques anormales, les amines notamment, qui sont produites. Même si vous les recongelez, il reste là-dedans.
Il est déjà en phase de décomposition.
Et même le microbe que vous congelez est toujours présent. Mm-hmm. Et quand vous allez le recongeler, le microbe continue encore sous son action, mm-hmm. plus vite qu'il a commencé. Et le microbe aussi dégage certaines toxines qui peuvent agir, même si après la cuisson, le microbe est mort. Mm-hmm. Des toxines qui peuvent être actives, parce qu'il agit souvent à 100 degrés. Donc même si le microbe est déjà tué par la cuisson, mais la toxine, la substance que le microbe a sécrétée, peut rester dangereuse.
Et déjà l'odeur du bouillon est... Et
nous le voyons directement à l'odeur du bouillon quand nous faisons des tests. Quand le poisson ou le produit quelconque est avarié, directement à l'odeur du bouillon, nous sentons l'odeur directement, nous font savoir que...
Il faut le mettre à la poubelle, docteur.
À la poubelle, c'est ça.
C'est la moindre des choses à faire, le mettre à la poubelle.
Effectivement.
Mais docteur, quand même, ce problème des chambres froides, pas les plus importantes de Kinshasa, mais des chambres froides qui existent et qui sont dans des zones où il y a des coupures intempestives d'énergie électrique, il y a quand même un problème. Ça peut justifier qu'il arrive parfois que sur le marché, on a du poisson avarié.
C'est un problème sérieux, évidemment c'est sérieux, et ça demande l'attention de l'inspection sanitaire, notamment, de l'hygiène publique. Et nous contribuons à la détermination de la température qui règne dans les chambres froides. Mm-hmm. Mais alors, en ce moment, il faudrait que le relais soit pris par les services compétents qui sont habilités au niveau de la commune, au niveau de la ville, sont habilités à réglementer ce genre de choses. Nous signalons seulement que cette chambre froide n'est pas utilisable parce que la température n'est pas bonne. Nous pouvons même demander aux OPJ de sceller une chambre froide. Mm-hmm. Mais après, ce n'est plus notre devoir de suivre aussi vraiment. La chambre continue à être scellée ou pas. Chacun fait son travail, évidemment.
Et c'est là qu'on comprend le lien qui existe entre différents services. La SNEL, s'il n'y a pas d'énergie électrique, eh bien, ça se répercute sur beaucoup d'autres services, des santé publique notamment.
Exactement.
Mais peut-être une autre question, docteur, qui se réfère à tout ceci, la pérennisation de l'action, enfin du travail qui est le vôtre, de votre spécialité. Est-ce qu'il y a beaucoup de médecins vétérinaires qui sont spécialisés dans ce type de contrôle avec lesquels qu'on est en train d'évoquer avec vous?
En principe, tout médecin vétérinaire suit une formation d'inspection des denrées alimentaires. Dans son cursus, cette formation est prévue. Mais au niveau de l'ECC, il y a bien sûr un plus. Il est recyclé et on lui donne une formation supplémentaire. Donc c'est un contrôle qu'on n'étudie pas à l'université pendant le cursus. Mm-hmm. Donc, mais je vais vous garantir que le personnel et l'expertise nécessaire pour ce contrôle existent à l'ECC et existent vraiment en nombre, en quantité suffisante, en qualité et en quantité suffisante.
Eh bien, nous allons prendre une autre réaction d'un auditeur qui, sur le sujet à sous-examen, nous rappelons à ceux qui viennent de se joindre à nous maintenant que Okapi Action a consacré la première heure d'aujourd'hui à cette rumeur selon laquelle des mpiodi ou poissons de mer ou chinchard seraient conservés moyennant formol. Faux, prouvent les scientifiques. Déjà la quantité à moyenne par mois, 2000 tonnes, la demande de Kinshasa pour ce poisson, ça serait... Les formoles coûtent extrêmement cher, ce sera un véritable manque à gagner pour ces messieurs qui sont les importateurs. Je vous laisse suivre cette réaction.
Oui, c'est monsieur Likobe, j'appelle, je suis dans la voiture, je suis arrivé de justice à la Gombe, je suis en train d'aller au bureau. Mais quand je suis ce qui s'est dit là, je me dis, mais est-ce possible? Parce que nous avons l'habitude d'accuser les gens dans notre pays, mais nous n'apportons pas la preuve. Quand vous nous indiquez que c'est dans telle chambre froide, où il y a, vous trouvez ce genre de sur telle avenue, à telle commune, qu'on nous apporte les preuves. Parce que si on ne mange pas les mpiodi, vous imaginez les conséquences. C'était ça mon intervention.
Voilà, merci monsieur Likobe qui vient de réagir. Docteur Kintaba, une réaction?
Non, parce que monsieur dit que c'est très facile de démolir. Mm-hmm. C'est difficile de reconstruire. Mm-hmm. Exactement. Qui a déjà amené à l'ECC un mpiodi, soi-disant, ayant contenu du formol? Nous sommes prêts. Ils sont prêts à analyser et à apporter notre contribution.
Et voilà, tous les points de vue convergent dans un même sens. Des auditeurs qui appellent, docteurs qui là qui en parlent. On a entendu des importateurs un peu avant dans cette émission. Ok, bien sûr, on va se quitter dans quelques instants. Vous êtes très nombreux, très nombreux à réagir. Voilà, Rachidi de Lubumbashi. Voici sa réaction. Y a-t-il quelqu'un qui détient les poissons conservés par Formol? S'il existe, il peut les ramener à l'OCC pour le contrôle et la confirmation au lieu de se baser sur les rumeurs. Voilà le point de vue de Rachidi de Lubumbashi. Et puis, Moutamba, il est nutritionniste. Il nous appelait de Kinshasa. Sa réaction, je la cite, les importateurs n'y sont pour rien. C'est plutôt une chambre froide à Kingasani ou Massina qui aurait utilisé du formol, pas tout le monde, selon les rumeurs, il y a un mois de cela. Monsieur Moutamba, il est nutritionniste, il croit avoir une rumeur qui aurait cité une chambre froide. Monsieur Moutamba, je suis sûr que vous nous attendez, vous nous écoutez. Si vous pouvez donner plus de précisions en écrivant à action@radiocapi.net et nous on transmettra à l'OCC, docteur, un numéro de téléphone au niveau de la direction laboratoire de l'OCC. Comme ça, monsieur Moutamba peut vous appeler et vous communiquer directement. Vous pouvez le dire en direct.
Le numéro 081
081
599
599
62 45.
Voilà, s'il y a quelqu'un qui a des informations précises par rapport à cette question des santé publique et d'intérêt général, qu'il appelle la direction de laboratoire à l'Office congolais de contrôle au 081 59 96 245. Autre réaction, c'est Pierrot Kamoy de Lubumbashi. Ce n'est pas une euthanasie contre les populations, cette pratique, c'est une mort à long terme. Comment réagissez-vous à ça, docteur?
Justement, comme je disais au début de l'émission, à s'attaquer à un produit de si grande consommation, et c'est vraiment une intention, c'est vrai exact, une intention vraiment diabolique.
Et que si la personne était appréhendée, elle serait poursuivie par elle est punissable devant le droit, hein, par rapport au droit. C'est le droit pénal, c'est un empoisonnement, ça.
Elle jette l'opprobre même au niveau des importateurs. L'opprobre au niveau du produit. Elle provoque la baisse des ventes.
C'est
préjudiciable.
Pensez que c'est criminel.
En tout cas, les juristes, moi, je pense que c'est très préjudiciable, aussi bien au commerce que aux habitants.
Mais voilà. Ok. Monsieur Moutamba, le nutritionniste qui nous a appelé tout à l'heure, il a dit que les importateurs n'y sont pour rien. C'est plutôt une chambre froide à Kingasani ou Massina. Si vous avez des précisions là-dessus, appelez la direction de laboratoire de l'OCC au 081 59 96 245. Et puis, monsieur Martin qui nous a appelé de Kinshasa, est-ce qu'on peut encore conserver l'impiodi à la maison après achat dans une chambre froide, docteur?
Comme je l'ai dit, l'impiodi congelé déjà devrait être consommé en dehors les deux jours s'ils sont conservés au réfrigérateur après décongélation.
Mmh. Mais voilà, pas plus. Voilà la réponse à votre question. Et puis Nico de Gombe qui voudrait savoir si l'analyse se fait par poisson ou par carton. Sinon, comment savoir si oui ou non on a utilisé du formol?
L'analyse se fait selon les règles précises d'échantillonnage, qui sont des règles internationales qui se rapportent à des normes précises. Parce que comment détecter le formol? Oh, il n'y a rien de plus simple. À partir d'une certaine teneur, le formol dégage une odeur caractéristique. Et si ça ne suffit pas, on peut, par des agents chimiques, c'est un aldéhyde, le formol. Il y a des complexants qui veulent nous révéler la présence d'un aldéhyde.
Ça, c'est pas difficile. Mais voilà, un autre auditeur qui voudrait savoir quelle est la conséquence du formol sur les poissons. Voilà.
La conséquence, c'est qu'on constate au niveau du corps humain, lorsqu'il est mort, ça provoque une dénaturation des protéines, c'est-à-dire une sorte de coagulation du muscle qui devient dur et prend une forme rigide. C'est pour ça qu'il paraît peu vraisemblable qu'on utilise un produit comme le formol qui est extrêmement agressif au niveau du muscle.
Ben oui, voilà. Et puis, nous allons prendre un auditeur qui a réagi. On va l'écouter. Je vous laisse l'entendre, docteur.
Alors, Bon, je m'appelle Kabongo Jérôme. J'appelle à partir de Goma Nord-Kivu. Alors, je voudrais savoir, bon, l'OCC contrôle les produits à l'importation. Est-ce que les produits sont contrôlés aussi au marché? Est-ce que l'OCC a une équipe dans les marchés pour contrôler les produits aussi? C'est ça mon occupation.
Docteur, réponse.
Monsieur Goma,
l'OCC Kabongoli, je vous appelle de Goma.
Ah, monsieur Kabongo.
Jérôme.
Hein. Ouais. Comme j'avais dit au début de l'émission, l'OCC a une mission précise que vous avez d'ailleurs rappelée, celle de contrôler les produits à l'entrée douanière, à l'importation. Quand les produits sont déjà en consommation, en distribution, il appartient maintenant au service de l'hygiène de suivre. L'OCC se contente à ce moment-là de contrôler la température qui réside dans les chambres froides pour s'assurer que les produits sont conservés dans de bonnes conditions. Mais au niveau de la distribution, qu'il s'agisse de médicaments ou de denrées alimentaires, c'est l'hygiène de la santé publique qui est chargée du suivi.
Et voilà la réponse à la question de Jérôme Kabongoli qui nous appelait des Goma. Edgar nous appelait de Kinshasa Limité. Voici sa préoccupation. Il faudra plus incomber la faute à l'OCC parce que selon Edgar de Limité, l'OCC ne fait pas suffisamment son travail. Sinon, les rumeurs pareilles ne peuvent pas circuler. Si l'OCC faisait correctement son travail, leçon docteur, il faut prendre au sérieux votre travail à la longue. Comment réagissez-vous à ça?
Oh, je ne pense pas que l'OCC peut empêcher la rumeur. L'OCC ou quelqu'un d'autre. Les rumeurs existent toujours. Et souvent, elles n'ont pas de fondement. C'est ça le syndrome de la rumeur. Parce qu'on ne sait pas tellement d'où elle vient, qui la propage. L'OCC, en ce qui le concerne, pour le sujet qui nous concerne actuellement, fait son travail correctement. Il n'y a qu'à voir un peu l'anal de ce que nous faisons. Combien de fois n'avons-nous pas refoulé des cargaisons entières de produits? Simplement, la date n'était pas très correcte, la date de production. Donc, à ce point de vue-là, demandez aux importateurs, ils savent que l'OCC est excessivement strict, particulièrement en ce qui concerne les vivres frais. Donc, je dis que le travail de l'OCC s'arrête au niveau des frontières. La suite n'est pas l'OCC. Une chambre froide de Mangasani, ce n'est plus l'OCC qui contrôle les vivres à ce niveau-là.
L'inspection sanitaire.
Sanitaire, exactement.
Et voilà, puis un auditeur, c'est la dernière. Nous avons les lacs les plus poissonnés en Afrique. Pourquoi devons-nous recourir en Chinchard?
Ça, c'est une organisation interne au niveau du pays. Ce sont les investissements, la sécurité d'abord dans le pays. Tout cela conditionne le développement du pays.
Voilà, docteur Kintaba, je rappelle que vous êtes directeur du laboratoire de l'OCC. Je vous remercie d'être venu et au revoir. Deuxième partie des Okapi Action, nous nous rendrons tout à l'heure à Bukavu, où il y a du rififi entre agents de la SNCC, succursale de Bukavu, et le ministère du portefeuille. À la base, la liquidation d'une partie de matériel de la SNCC Bukavu. Aussi on l'a. Et puis à Bunia, il faut recourir à tous les moyens pour ramener la cohabitation pacifique à Bunia. La dernière invention à date, c'est l'ouverture d'un salon de coiffure mixte qui va regrouper une cinquantaine de jeunes issus de toutes les communautés vivant à Bunia. Idée originale. On s'y rendra dans la deuxième partie des Okapi Action. Vous le savez, vous pouvez réagir et intervenir dans ce magazine en appelant au 081-890-6890 si vous nous appelez de la République démocratique du Congo ou du Congo-Brazzaville. Si vous nous suivez de par le monde entier, faites le 00-243-81-890-6890 ou envoyez un mail à action@radioukapi.net. On se retrouve dans quelques instants. Okapi Action, deuxième partie, c'est parti, toujours avec Alain Goy à la mise en onde et Walter au micro, évidemment. Bon, voilà, la deuxième partie, nous changeons un peu de chapitre. Nous avons appris que cette rumeur sur l'Impio 10 n'est pas fondée. Nous vous avons communiqué le numéro de la direction de laboratoire de l'OCC si éventuellement vous avez des informations fiables à ces sujets. Question de permettre à l'Office congolais de contrôle d'aller faire son travail par là. Je rappelle ce numéro, c'est le 081-59-96-245. Vous allez tomber sur Dr Kintaba, qui est directeur de laboratoire à l'OCC, et vous allez lui donner toutes les informations nécessaires. Question d'apaiser définitivement les consommateurs, les importateurs de Ntiodi du Chinchard. Sans pour autant oublier le point de vue d'un auditeur qui disait que en RDC on a le lac le plus poissonné en Afrique. Pourquoi devons-nous recourir au chinchard? C'est la question qu'il nous a posée. Et alors, à ce moment-là, ça continue à faire d'autres réflexions qui peuvent nous aider à aller de l'avant. La deuxième partie de Okapi Action, nous vous l'avions annoncé tout à l'heure, à Lengoy. On va se rendre dans une autre ville dans quelques instants. C'est Bukavu, où les agents de la SNCC et le ministère du portefeuille sont à couteau tiré. À la base de cette situation, la liquidation d'une partie du matériel de la SNCC Bukavu. Les agents s'y opposent catégoriquement. Selon eux, le matériel concerné ne devrait pas être vendu car il représente une valeur importante pour la succursale de la SNCC à Bukavu. La succursale de Bukavu est en voie de réunification avec la direction générale qui se trouve à Lubumbashi. On va parler du sujet avec Michel Chirimwami. Michel, bonjour.
Bonjour Walter.
Dites-nous, Michel, qu'est-ce que cette histoire de liquidation a de fondement au niveau de la SNCC? Est-ce que la succursale de Bukavu connaît tellement de problèmes qui peuvent justifier une liquidation?
Bon, Walter, je ne saurais pas vous le dire, car malgré les problèmes d'après la guerre, la SNCC est une société d'État bien et bien établie à Bukavu et active sur le lac Kivu et le lac Tanganyika. Le port de Kalundu et de Bukavu sont officiellement gérés par la SNCC Bukavu et Uvira. Le problème de liquidation est relatif à l'héritage de cette société qui, selon les explications que nous avons reçues, émane de la SNCZ Holding. Donc la liquidation a été décidée par le ministère du portefeuille. Donc, selon les explications, la SNCZ Holding, entreprise étatique de l'époque Mobutu, comprenait quatre sociétés autonomes, dont l'OCS, c'est-à-dire l'Office du chemin de fer du Sud, la FFE, Société de chemin de fer de l'Est, et la SNCZ elle-même Holding, qui supervisait toutes les autres. Donc la SNCZ Holding ayant été dissoute, il fallait passer à la liquidation pour laisser continuer la SNCC.
Bon, alors, comment est-ce qu'on explique l'opposition des agents de la SNCC à Bukavu et à Uvira par rapport à cette décision de liquidation?
Oui, Walter, à Bukavu et à Uvira, les agents, d'ailleurs la direction aussi, s'est trouvée à court et ne comprenaient pas le bien fondé de la liquidation. Ils ont réagi contre la vente qu'on projetait de faire. Et celui qui projetait, c'était la commission de liquidation, pour des raisons que la liquidation ne devait pas viser les engins, certains engins qui constituaient une valeur certaine et qu'il ne fallait pas confondre aux biens hors usage, notamment les mitrailles. Le directeur de la SNCC, M. Gilbert Mutimbo, était d'ailleurs surpris de voir que les biens consignés dans la liquidation n'avaient pas été désignés lors de l'inventaire parce qu'on avait fait un inventaire au préalable. Alors, à ce sujet, écoutons un des agents de la SNCC Bukavu qui s'indigne de cette opération.
Nous sommes contre cette vente qui ne doit pas avoir lieu, d'autant plus que l'inventaire de matériel avait commencé à Likasi, à Lubumbashi et à Kalemi. Et partout où ces liquidateurs sont passés, ils n'avaient rien vendu, sauf qu'à Bukavu, où ils ont inventorié en dernier lieu les matériels. Ils veulent maintenant vendre nos unités de navigation et nous, on n'est pas d'accord. Ils nous ont parlé de la vedette Mbandaka, de la vedette Matadi, de la vedette Ruzizi, de la vedette Ruchuru, du remorqueur Kirambo, de toutes les barges de la série B et d'autres matériels. Bon, il y en a qui ne sont vraiment pas des épaves, qui ne manquent que des moteurs et qui peuvent être réparés. Et qu'ils veulent vendre, et nous, on n'est pas d'accord. Nous voudrions vraiment que cette vente ne nous occasionne pas une concurrence vraiment devant laquelle nous ne saurons pas tenir sur le lac Kivu.
Un agent de la SNCC Bukavu. Michel Chirimwami, vous nous avez dit que la protestation s'est étendue jusque Uvira. Qu'est-ce que les agents de la SNCC côté Uvira voulaient-ils eux aussi?
Oui, ils étaient les agents de la SNCC Uvira étaient informés de ce qui se passait à Bukavu, mais ils étaient presque en alerte maximale et disaient ne pas comprendre aussi l'objet de la mission de la liquidation. Et surtout, ils étaient aiguillonnés par la nouvelle selon laquelle la maison de passage de leur société, située à Bujumbura, était aussi visée par la mesure de liquidation. Contacté les délégués syndicaux de la SNCC Uvira, nous ont dit leur étonnement. Je vous propose de les écouter.
Les syndicats de la SNCC ici, port de Kalundu,
oui.
Nous sommes indignés de ce que nous venons d'apprendre. Il y a une délégation envoyée par le ministère du portefeuille de Kinshasa qui séjourne actuellement à Bujumbura pour la vente de notre maison, de la maison donc qui constitue le patrimoine de l'entreprise SNCC. Alors, avant donc d'arriver à Bujumbura, il est passé par Bukavu où il a encore proposé à ce qu'on puisse vendre nos vedettes, nommément la vedette Matadi et Ruzizi. Alors, c'est une situation que nous ne parvenons pas à comprendre, puisque actuellement la société, notre société est en train de se réhabiliter, puisque il y a des bateaux qui étaient bloqués à l'étranger pendant cette période de guerre, c'est-à-dire environ 6 ans.
Oui.
Le gouvernement vient quand même de nous les lancer pour l'exploitation. Et la direction générale est en train de s'organiser. Pour le moment, déjà, du côté là et là, ça va. On est en train d'organiser tout le matériel, le remettre en ordre. Et récemment, même, il y a des pièces de grille qui sont venues de Kalemie pour réparation de toutes les grilles du port de Kalundu. Maintenant, on ne parvient pas à comprendre comment est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut ça pour venir liquider la société alors qu'il n'y a pas encore des histoires à liquider. D'ailleurs, la FNCC Holding, ce n'est pas elle qui a acheté ce patrimoine qui se trouve à Bujumbura ni à Bukavu. Et il y a environ 7 ans, on a dissous ce genre de société qui faisait donc l'objet de cette partie qu'on appelait la FNCC Holding.
Un agent de la SNCC, succursale de Uvira. Alors voilà, Michel, on vient d'entendre des parts et d'autre, les cahiers des charges en résumé des agents de la SNCC et à Bukavu et à Uvira. Est-ce que vous avez cherché à rencontrer une personne qui décide, à l'occurrence quelqu'un du ministère du portefeuille qui a initié cette commission des liquidations, qui doit mener cette opération en vue de comprendre ce qui se passe exactement?
Exactement, Walter, nous avons contacté le ministère du portefeuille qui a expliqué les tenants et les aboutissants de l'opération. En substance, il a dit que la liquidation a été décidée par son ministère pour clôturer la dissolution de la société SNCZ Holding, comme nous l'avons dit, une société dont la dissolution a été décidée en 1995. Il a expliqué les biens qui étaient concernés par la liquidation et a recommandé d'ailleurs la compréhension entre les délégués de son ministère et les responsables de la société à Bukavu comme à Uvira. Je vous propose d'écouter Célestin Vunabandi qui nous a expliqué à peu près.
Que les biens à mettre à la disposition du comité de liquidation sont des biens qui sont hors d'usage. C'est notamment les mitrailles, ce sont les bateaux, les engins complètement désastreux. Disposition de fonds, d'une partie de fonds qui seront réalisés de telle sorte que ceux-ci puissent s'en servir de manière à faire face à quelque chose.
Ben, je pense qu'il y a. Enfin, les leçons étaient tellement courtes qu'on n'a pas entendu la suite, mais nous aurons l'occasion de creuser le sujet avec le ministre Vunabandi. Mais Michel Tirmami, revenons alors dans ce cas au niveau des agents, le ministre qui a donné ce qui a avancé et ses raisons. Est-ce que les agents ont d'autres griefs qu'ils font porter à la direction générale située à Lubumbashi que peut-être cette direction pourrait résoudre ou bien il y a encore des zones d'ombre?
Oui, Walter, je pense d'abord avoir entendu que les agents attendaient que la direction générale puisse prendre en charge les problèmes des agents. D'abord, c'est la direction générale qui était censée éclairer sur la validité de cette liquidation. Les agents ont dit avoir été étonnés de ne voir personne du côté de la direction générale de la SNCC présent lors de cette liquidation. Ils se sont dit que la liquidation survenait même au moment où ils attendaient la réunification avec l'entreprise, parce que de ce côté de Bukavu, les agents disent encore attendre le contrôle physique qui a été fait dans les autres directions, à Kalemie, à Kindu. Et ils ont aussi parlé de la paix de plusieurs arriérés de moins de salaire, notamment 73. On les écoute.
Nous demandons à ce que la direction générale envoie la commission pour le contrôle physique des agents. Cela marquerait vraiment la réunification de notre société, puisque nous sommes les seuls qui n'avons pas encore été contrôlés physiquement jusque-là. Dernièrement, cette commission est passée à Kalemi, comme à Kindu et à Kisangani, mais nous l'attendons toujours et nous souhaitons vraiment qu'elle vienne le plus tôt, et ce sera le mieux.
Et voilà, la balle est donc dans le camp de la direction générale de la SLCC, cette direction a son siège à Lubumbashi. Nous essaierons de prendre un peu plus d'informations sur la question. Michel Chirimwami, merci beaucoup et à bientôt. Au plaisir de nous revoir pour de nouveaux sujets en provenance de Bukavu.
Merci beaucoup et au revoir Walter et au revoir chers auditeurs.
Ils vous ont entendu, merci, au revoir. Les agents de la SNCC à Bukavu et à Rouvira, problème qui est survenu du fait de la présence d'une commission de liquidation qui s'est rendue dans ces deux villes. Les agents ont protesté, selon ces agents, c'était pas le moment de procéder à ce genre de liquidation, et surtout que les objets ou les valeurs concernées par cette liquidation avaient une grande valeur pour la survie des succursales de la Société Nationale des Chemins de Fer au niveau de Bukavu et la succursale de Uvira, et donc ce bras de fer n'a pas encore été décompté. Les agents interrogés campent sur une dernière position qu'ils attendent, donc des explications de la direction générale qui siège à Lubumbashi. C'était donc cela. Nous devrions avoir un invité pour compléter tout ceci, avoir davantage d'informations. Le temps que nous réussissions à l'avoir, laissez-moi vous rappeler le numéro d'appel de l'Office congolais des contrôles par rapport à ce fameux sujet de la rumeur selon laquelle une chambre froide où on utiliserait du formol pour conserver les vivres frais. En tout cas, la rumeur est fausse. Nous avons entendu le directeur de laboratoire de l'Office congolais de contrôle qui nous en a parlé. D'autres auditeurs sont intervenus pour dire la même chose. Le numéro de contact du laboratoire de l'OCC, c'est le 081-59-96-245. Si vous avez des informations précises à ce sujet, priez, appelez à ce numéro et les gens de l'OCC descendront sur place pour enquête, analyse et soumettront une proposition de décision à l'autorité. Encore est-il que, en ce qui concerne les coupures intempestives d'énergie électrique, vous avez entendu la réponse de Dr Kitamba à ce sujet, il faut que l'inspection de la santé puisse contrôler l'état et le niveau de toutes ces chambres froides. On se retrouve dans quelques instants pour la suite du magazine Okapi Action. Et voilà, nous vous annoncions avant cet extrait de musique qu'on se battait pour avoir un expert pour nous faire comprendre ce qui se passe au niveau de la commission des liquidations de certains matériels de la SNCC succursale de Bukavu et Uvira. Nous avons tenté de joindre le ministre du portefeuille sans succès. La DG de la SNCC, M. Nkoulou, nous l'avons joint bien avant le début de cette émission. Sa réponse, c'est qu'il ne peut pas parler de cette situation avant la réunion du conseil d'administration. Donc, il ne peut en parler qu'après la réunion du conseil. Voilà, on a essayé de tout faire pour faire entendre finalement la voix de ceux qui doivent décider. De cette situation, nous n'avons pas pu avoir ce que vous souhaitiez avoir. Nous savons que à Bukavu, Vira et ailleurs qui sont concernés par le dossier attendaient la réponse de l'un ou de l'autre, soit du ministre Vunabandi ou de l'ADG M. Nkoulou. C'est donc dossier à suivre. Dans les cas, comme dirait quelqu'un, Okapi Action, autre vie, autre réalité. Dans quelques instants, nous nous rendrons à Bunia.
Okapi. Un seul pays. Une seule radio, Okapi.
Et voilà, nous sommes à Bounia où nous apprenons une nouvelle assez intéressante. Il faut à tout prix assurer une cohabitation pacifique entre les communautés à Bounia. Plusieurs initiatives sont mises en œuvre et en contribution. La dernière à date, c'est l'initiative pour le sauvetage de la coiffure à Bounia. Financée par le PNUD, Programme des Nations Unies pour le Développement, le projet Isco Bounia regroupera une cinquantaine de jeunes coiffeurs issus des différentes communautés. Le salon de référence ou salon mère a vu le jour depuis le 3 décembre dernier. Pour parler de cette initiative originale, nous avons en ligne depuis Bounia notre consoeur Adolphine Goy. Adolphine, bonjour.
Bonjour Walter.
Dites-nous, quels sont les objectifs poursuivis par le PNUD à travers ce projet, à travers cette initiative?
Bon Walter, il faut dire que des objectifs sont visés par le PNUD dans la création de ces salons. D'abord, il s'agit de contribuer à la cohabitation pacifique de la cité de Bounia en regroupant les jeunes de toutes tendances ethniques. Ensuite, il s'agit de promouvoir à l'auto-prise en charge, tout en visant la pérennisation de cet ouvrage après le départ du PNUD.
Ben alors, le projet a commencé depuis le 3 décembre. Dites-nous, Adolphine, comment ces jeunes s'y prennent-ils pour que cette action, cette activité soit une réalité?
Ok, les jeunes qui travaillent dans ces salons de coiffure ont vite compris l'idée de l'agence onusienne. Ils travaillent avec zèle. Figurez-vous, tôt le matin, à partir de 8 heures, ils ouvrent les salons de coiffure et reçoivent les clients, hommes et femmes, confondus, et cela jusqu'à 17h30. J'ai d'ailleurs rencontré l'un des coiffeurs, il s'appelle Ouzélé des Dieux. C'est un jeune garçon, un ex-enfant associé aux groupes armés de l'Ituri. Lui, il a pu intégrer les salons après sa désertion. Il nous raconte son histoire.
Si nous nous sommes regroupés ici, comme vous le savez, l'Ituri a connu des moments difficiles où les gens ont été dispersés, il y a eu des exactions et les jeunes coiffeurs, eux, ils ne pouvaient pas se mettre ensemble et ils ne pouvaient pas dialoguer comme il faut entre eux. C'est comme ça que nous nous sommes donné cette obligation de se regrouper et de créer une association qui peut faire venir des coiffeurs de tous les coins et de tous les recoins pour que ces derniers puissent avoir le sens du travail collectif.
Une musique de fond, ambiance du salon de coiffure, évidemment. Adolphine Goy, dites-nous, parlez-nous un peu du salon de coiffure, restons-y, parce que cette petite musique nous y a donné goût. Comment fonctionne le salon et combien de jeunes gens travaillent dans le salon en question à Bounia?
Oui, Walter, le salon dit salon La Référence emploie une soixantaine de jeunes issus de toutes les tribus, comme nous l'avons dit précédemment. Ils travaillent à tour de rôle selon la disponibilité de chacun. Le salon est convenablement outillé, vous pensez? Vous imaginez, on y trouve des casques, des chaises, des miroirs, des peignes, il y a même un évier ainsi que des tondeuses. Et ce qui est particulier, c'est l'existence d'un stérilisateur pour éviter toute contamination. D'ailleurs, les clients eux-mêmes en témoignent.
Avec PNUD, nous avons tracé notre plan avant d'avoir cette somme. Commencer avec le salon de référence, chercher à créer aussi quelques sites qui seront considérés comme des petits salons à partir du 28 juillet 2004 que nous avons signé le protocole d'accord et le financement à suivre.
Voilà, je pense que nous nous sommes trompés sur un élément sonore. On va écouter le témoignage plutôt d'une cliente qui témoigne de la façon dont le travail est fait dans ce salon.
Madame, mais pourquoi vous venez dans ce salon ici?
Parce que d'abord, les salons sont très propres. Bon, et surtout, je vois aussi, elles ont aussi un stérilisateur, une aiguille par personne. Les filles qui travaillent ici, elles ont la rapidité et elles accueillent bien leurs clientes.
Voilà le témoignage d'une dame qui est venue se faire coiffer dans ce salon La Référence. Rappelons que c'est un salon mixte. Adolphine, on a appris que le salon La Référence est maintenant l'un des plus grands salons de coiffure de la ville de Bounia. Comment sont gérées les recettes?
Bon Walter, selon les coordonnateurs M. Charité Maté, l'argent perçu par les jeunes coiffeurs est versé auprès de lui. Lui, à son tour, il remet à la fin de chaque semaine une prime au coiffeur et le reste, il l'épargne en vue de l'autoprise en charge. Nous l'écoutons, il nous a répondu clairement.
Lui ne peut pas donner tout. Nous aussi, de notre propre effort et par les recettes que nous avons encore augmenté d'autres choses qui manquent. La même recette, nous avons des pourcentages que nous avons discutés ensemble avec les amis qui travaillent dans le salon et hebdomadairement, ils ont leurs droits chaque samedi. On a passé des moyens pour acheter des gros matériels que vous voyez ici.
Et voilà comment les jeunes vont essayer de gérer les fonds qui est donné. Adolphe Ngoy, peut-être un mot. Est-ce que vous-même, vous vous êtes fait coiffer dans ce salon déjà?
Oui, Walter, si vous pouvez être ici, vous verrez la coiffure que j'ai ici. C'est l'œuvre du salon La Référence. Voilà tout ce que je peux dire sur ce salon qui offre beaucoup, beaucoup d'emplois aux jeunes. Pour leur survie. Au revoir.
Mais oui, ne soyez pas pressé de partir. Vous avez payé combien pour cette coiffure?
La coiffure, celle que j'ai ici, ça revient à 8 dollars. Mais comme j'étais l'une de leurs clientes de choix, je n'ai payé que 5 dollars.
Ah, vous avez négocié alors. Bon, très bien. Hein, voilà, il y a quelqu'un qui se surprend d'entendre que ça coûte 5 dollars ou 8 dollars. Tant mieux, mais bon, c'est une façon d'occuper les jeunes à Bougnard. Adolphine, merci beaucoup. Nous aurons quelques détails et des précisions tout à l'heure avec M. Chamar Chamaluroy, qui est expert national du PNUD, chargé notamment de la pacification en Ituri. Des questions, des réactions, faites le 081-890-68-90. On va se retrouver dans quelques instants à Dolphine Goy. Merci beaucoup et au revoir. Ciao, ciao.
Merci, Walter. Au revoir.
Chamar Chamaluroy. Monsieur Chamar Chamaluroy, bonjour.
Bonjour, Walter.
Ah, bien, merci. Vous êtes expert national du PNUD. Vous êtes en poste à Bougnard pour la pacification de l'Ituri. Dites-nous, comment le PNUD a-t-il choisi un projet de salon de coiffure pour accompagner les processus de pacification?
Et Monsieur Walter, je voudrais moi vous dire que l'idée était venue d'un certain coordonnateur de l'IFCO et Monsieur Charité. Et donc l'idée étant venue de lui, le PNUD a vu l'intérêt dans ce projet de réunir tous les jeunes de Bougnard, les jeunes coiffeurs de Bougnard pour la pacification, la cohabitation pacifique. Nous avons mûri le projet et nous l'avons étendu et proposé à d'autres coiffeurs. Ainsi, le projet a pris l'ampleur de tous les coiffeurs de Bougnard.
Combien sont-ils?
Ils sont au nombre, ils sont une soixantaine, peut-être 75.
Mais comment travaillent-ils dans ce salon? Comment se relaient-ils là-dedans?
Et le PNUD avait donné une donation de matériel. Nous avons donné l'argent et la première tranche déjà à ISCO. Et ISCO a fait les achats des matériels, les matériels qui étaient contenus dans le budget. Et donc, ils ont équipé le salon. Et donc, des garde-fous sont encore à reformuler.
Mais oui, dites-nous, Monsieur Chamaluroy, je voudrais savoir, vous dites qu'ils sont presque 75, ils ont une soixantaine, mais comment travaillent-ils dans ce salon? Est-ce qu'ils sont tous les 60 en même temps dans le salon et comment ça se passe?
Non, une soixantaine de personnes ne peuvent pas être dans un salon, ils seront étouffés.
En fait,
ils font une rotation. Ils font une rotation selon le programme établi par la coordination. Ils font la rotation. Peut-être 10, 15 personnes sont régulièrement dans le salon. Et donc, chaque salon reçoit quelques personnes de chaque ethnie différente.
Mais oui, alors, il y a un seul bâtiment qui abrite le salon, ou est-ce qu'il y a plusieurs bâtiments, et est-ce qu'ils sont, si vous voulez, brassés ensemble, les jeunes de toutes les communautés?
Et il y a un seul grand bâtiment, divisé en deux par les triplex, une partie pour les dames, une autre partie pour les hommes.
Mmh. Et alors, décrivez-nous un peu l'ambiance, ça fait rêver à entendre ici de loin et on a du mal à comprendre comment, à votre avis, c'est là la question que je vous pose au sujet de l'impact entendu de ce projet par rapport à l'objectif poursuivi, la pacification.
Vous savez, l'objectif du PNUD en Ituri, c'est, c'est le projet de réconciliation et développement communautaire. Mm. Donc, maintenant, nous essayons de cadrer le projet dans cet objectif du projet du PNUD en Ituri. Mm. Et donc, maintenant, les coiffeurs étant aussi des jeunes ituriens et ayant passé des moments parfois très difficiles de guerre ici, entre eux, ils se battaient. Maintenant, si vous étiez dans le salon, si vous étiez ici à Bounia, vous allez remarquer qu'ils sont ensemble, parfois des ennemis qui étaient auparavant des ennemis, ils travaillent ensemble, ils se parlent, ils décident ensemble dans une sorte de comité de gestion. Et le salon essaie de trouver ses premiers résultats et un bon succès en fait pour le PNUD.
Et qu'est-ce qu'ils gagnent là-dedans, au-delà de la cohabitation qui revient entre toutes ces communautés qui sont dans ce salon? Et qu'est-ce qu'ils gagnent matériellement? Parce que le problème, c'est qu'est-ce qu'on gagne après, quoi.
En fait, le projet a deux volets, comme on le disait. Le projet a deux volets. Le premier volet, c'est la cohabitation pacifique. Le deuxième volet, c'est une activité génératrice de revenus. L'argent qui vient de ce salon pourra appuyer, soit en matériel, soit financièrement, en argent, et les autres salons et les jeunes même pour leurs projets à venir. Donc, parce que le salon de référence, on l'appelle salon mère, qui pourra rayonner et pour d'autres salons de coiffure et pour appuyer les jeunes afin qu'ils se prennent en charge plus tard dans leur avenir.
Et à partir de quelle échéance, d'ici combien de mois par exemple, on va assister à la création d'un descendant du salon La Référence?
Et nous pensons que le mois de janvier, on devait commencer ce mois de décembre, et peut-être le mois de décembre et le mois de janvier, on pourra commencer à créer des salons autour des salons de référence. Nous comptons installer 4 salons et autour de ce salon mère. Un salon vers le sud à Yambi, un autre vers le nord à Muzipela, un autre salon à l'est et à l'ouest, c'est-à-dire à Bankoko et à la cité à Sayo. Mmh.
Mais et dans tout ça, finalement, depuis que le projet a démarré, est-ce que vous avez un regard, vous avez constaté que peut-être les fonds sont bien gérés? Combien est-ce qu'ils peuvent gagner par jour? Parce que j'ai entendu tout à l'heure Adolphine qui s'est fait coiffer pour $5.
En fait, pour le PNUD, tout projet doit avoir des garde-fous. Les coiffeurs, ils ont un comité de gestion qui orchestre chaque jour les montants perçus de ce salon. Et dire qu'il faut combien ils gagnent tous les jours, comment ils utilisent cet argent, bien sûr nous devons le faire. Et nous attendons les rapports réguliers et mensuellement. Et donc c'est à partir de ce premier rapport, parce que le projet venait de commencer, c'est à partir de ce premier rapport que nous allons pouvoir suivre, regarder clairement comment l'argent est géré, combien ils gagnent régulièrement et combien ils pourront gagner prochainement. Donc, nous avons le système de suivi régulier, suivi et évaluation, mais nous attendons le premier rapport pour déterminer l'idée, le chemin à suivre pour les coiffeurs. Mmh.
Monsieur Chamaliroy, donc ce projet salon du coiffure, c'est un des projets que le PNUD a financé à Bounia dans son projet de développement communautaire et évidemment la pacification. Est-ce que vous pensez que c'était le projet à prendre ou il y avait peut-être un autre domaine que vous auriez pu exploiter vis-à-vis des jeunes?
Et nous avons plusieurs projets des jeunes. Et d'abord, il faut dire que le PNUD de Anitori a 3 volets dans ses activités. Le premier volet, c'est la pacification. Le deuxième volet, c'est la revitalisation communautaire. Le troisième volet, c'est la réhabilitation communautaire. Le projet de coiffeur a les 2 volets à la fois, c'est-à-dire la pacification, réconciliation et la revitalisation communautaire. Donc, nous avons autant de projets pour le PNUD, une trentaine, 39 projets seulement pour la seule ville de Bounia. Et nous avons des projets des musiciens, un autre projet des musiciens pour les jeunes. Nous avons un centre d'encadrement des jeunes où il y a les jeux, les vidéos, les bibliothèques, l'internet. Et nous avons aussi installé beaucoup d'autres projets pour les jeunes. Et pas seulement pour les jeunes, mais il y a d'autres projets tels que le stade, la construction, nous sommes en train de construire le stade de Bounia. Et donc autant de projets pour les jeunes, pour encadrer les jeunes et faciliter la cohabitation pacifique et pour revitaliser la vie de Bounia.
Lorsque j'attends au stade de Bounia, lorsque je vois un salon de coiffure, c'est vrai qu'il y a un volet femme, mais bon, les jeunes filles, je ne les vois pas vraiment dans beaucoup de ce que vous venez de dire. Est-ce que vous pouvez nous donner des précisions sur des projets qui intègrent de façon spécifique les filles?
Et à Bounia, nous avons, à part le salon de coiffure, où il y a l'aspect de la partie des filles, nous avons aussi autant de projets qui regroupent les filles. Nous avons des centres d'encadrement des filles pour la couture, la broderie et autres. Donc, nous avons autant de projets ici à Bounia où les filles se retrouvent aussi. Pour le PNUD, le PNUD respecte le gender, comme on dit. On n'a pas de frontières.
Il n'y a pas de frontières. Est-ce que, à part les projets que vous venez d'évoquer avec nous, y a-t-il d'autres projets qui sont envisagés à Bounia, en dehors de la cible jeunesse? Est-ce qu'il y a d'autres projets pour les personnes âgées, par exemple?
Oui, on ne dit pas seulement pour les personnes âgées, mais pour toute la population de Bounia. Mm. Nous avons des projets de construction, nous avons des projets des écoles, nous sommes en train de réhabiliter des écoles. Nous avons des projets de routes à Bounia. Autant de projets tels que l'informatique, et les journalistes, et aussi, pas vous de Okapi, mais vous aussi, vous êtes inclus dans...
Pourquoi pas
dans, dans, nous avons...
On est journalistes comme tout le monde.
Nous sommes en train d'appuyer les journalistes, et donc revitaliser leur système de travail, mmh. et moderniser un peu leur système de travail. Et, parce que vous savez, les journalistes ici localement, parfois on peut dire qu'ils ont été oubliés. Nous sommes en train de moderniser un peu leurs appareils, leur système de travail, pour qu'ils soient professionnels comme vous.
Parlons-en de nos confrères à Bounia, parce que au mois de juin, il y a plus d'un an, quand j'étais là-bas, il n'y avait que la radio Candip et puis une autre radio confessionnelle qui avait fermé, qui a rouvert après. Comment ça évolue de ce côté-là, au niveau du travail?
La radio Candip continue à émettre. Nous avons une autre radio communautaire, Radio Canal et Révélation.
Oui, tout à fait.
Et laissez-moi vous dire une autre. Nous sommes en train d'appuyer aussi des radios communautaires en Ituri. Mm-hmm. Nous venons d'en installer 4. Et parmi aussi la radio Canal et Révélation, nous appuyons la radio Canal et Révélation en matériel. Et aussi, nous avons formé leurs animateurs. Ce sont pour nous des pères éducateurs, mm-hmm. Pour ce qui concerne la lutte contre le VIH/SIDA.
Mmh. Lutte contre le VIH/SIDA. Finalement, Chama Leroy, vous me ramenez sur des sujets assez sensibles, parce que c'était pas ça le thème d'aujourd'hui, mais j'en profite pour vous poser cette question. Nous avons appris à l'occasion de la journée du 1er décembre que les préservatifs sont très rares à Bounia. Que faites-vous pour qu'il y ait suffisamment de préservatifs à Bounia? Parce qu'il n'y en a pas, et beaucoup de jeunes sont très sexuellement actifs, quoi.
Et je n'ai pas de preuves que les jeunes sont actifs dans ce domaine. Mais en fait, vous savez, parler de préservatifs officiellement ici, c'est en fait un tabou. Je pense aussi que ça nous concerne, hein, nous tous aussi. Et donc, je ne peux pas exposer, je ne peux pas m'exposer devant un boutiquier ou quelqu'un d'autre. Disons, je viens acheter des préservatifs, donc il va s'imaginer que je vais faire le travail. Donc, c'est quelque peu un tabou, moi je m'imagine, et donc vous savez.
Mais monsieur Chama Leroy, on parle d'une question très sensible. Pourquoi est-ce que dans les salons que vous êtes en train d'ouvrir, parce que c'est fréquenté par beaucoup de jeunes, vous ne pouvez pas ouvrir un stand où sont exposés les préservatifs qui seront vendus à ceux qui viendront? Parce que le fait que les gens ne le demandent pas, ça ne signifie pas qu'ils n'en ont pas besoin.
Bon, en fait, on envisage, c'est envisagé. Dans la deuxième partie de notre donation, il y aura ça. Les jeunes, maintenant, ils vont recevoir une formation dans le cadre de lutte contre le VIH/SIDA. Et nous allons leur proposer une donation. Et c'est envisagé, en fait, pour la deuxième partie de ce projet. Nous allons mettre un stand et on va mettre des préservatifs. D'ailleurs, nous allons écrire sur le mural, sur le mur, les mots, les phrases de lutte contre le VIH/SIDA. Et on va indiquer par une flèche qu'il y a des préservatifs à côté là. Si vous en voulez, bon, utilisez-les. Si vous... Bon, c'est hier. Pour là, pour le salon, pour le PNUD, il n'y a pas de tabou. Donc, on va envisager en fait.
Ok, tout à fait. Ça va être ma dernière question, Chamalé Roy. À partir de quel moment les salons qui sont en train d'être créés seront totalement dirigés et gérés par les jeunes qui y seront formés?
En fait, nous avons une période de 3 mois que nous allons continuer à suivre les coiffeurs. Et après les 3 mois, nous allons instaurer, dans les 3 mois, nous allons instaurer un système de pérennisation et renforcer leur capacité de réponse à travers les comités de gestion de ce salon. Donc après, ils vont se prendre en charge eux-mêmes.
Bien, Chamalé Roy, je rappelle que vous êtes expert national du PNUD, chargé de la pacification en Iturie. Je vous remercie d'avoir répondu à nos questions et vous souhaite plein succès dans la réalisation des projets de pacification et de développement communautaire en Iturie.
Merci Valter, c'est moi qui vous remercie.
Merci beaucoup. Et Okapi Action se termine sur cette note d'espoir pour les jeunes de Bounia. Toute l'équipe des productions vous remercie de votre sympathique attention et se réjouit de vous retrouver demain, 9h02, heure de Kinshasa. Jean-Claude Siala était à la mise en onde. Au micro, il y avait Walter Mbayirindi Molondi. À bientôt pour de nouvelles aventures dans vos vies.